éco-village. Effectivement, ce petit côté pavé donne ce petit côté village. D'ailleurs, on appelle le village Charonne. Et il y a un super mélange bobo, populaire. Les gens s'entendent super bien. Enfin...
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un numéro très prometteur de Zoom Zoom Zen, car le bonheur qui m'inonde à l'idée de vous retrouver n'est rien par rapport à celui que ressent Manon Mariani à l'idée de découvrir aujourd'hui le concept des éco-villages. Un concept qui renvoie cette Parisienne de souche à ses deux pires cauchemars. Le côté village, le côté village de Quentin Luy et le côté éco de Ghislain Fontana, notre réalisateur décroissant. Quand elle entend le mot éco-village, elle voit, au cœur d'une France profonde, une rangée de tiny house sur un terrain vague en bordure d'une départementale avec un panneau « Jiffy des idées de génie, prochaine à droite après le quick ». Comment Manon va-t-elle réagir en découvrant la définition, la vraie définition de l'éco-village ? Peut-elle d'ailleurs bien réagir, sachant, rappelons-le, qu'elle considère encore à ce jour, et malgré toutes les explications qu'on a pu lui donner, que Angers est un village.
Mon Dieu, avec le gros Bershka là.
La probabilité est donc faible, mais on croise les doigts. Enfin, pas moi, parce que je peux pas, mais eux. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Guillaume Faburel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi, Guillaume. Vous êtes géographe, professeur à l'Université Lyon 2. Vos recherches portent essentiellement sur la ville durable et la justice urbaine. Vous avez publié l'an dernier « Indécence urbaine pour un nouveau pacte avec le vivant » chez Flammarion, un livre dans lequel vous dénoncez l'urbanisme des grandes villes. On va voir avec vous pourquoi ces éco-villages peuvent être une solution. Juste le temps de vous présenter mes précieux acolytes, Manon Mariani, Quentin Luy, bonjour.
Bonjour.
Vous faites toujours rire quand je vous définis comme précieux.
Oh non, bah non, non, on le sait, Mathieu.
On a
pas besoin de votre...
Vous avez conscience de votre valeur désormais.
Oui.
C'est ce problème. Peut-être que je les ai portés trop vite.
Oui,
peut-être qu'il faudra penser à changer.
Effectivement, je vais peut-être changer de lancement. Manon, chaque après-midi, vous nous dites qui est l'autre personne à suivre.
Un couple d'Écossais qui a créé l'un des premiers éco-villages au monde. Alors au départ, c'était plutôt un camp de hippies, mais aujourd'hui, c'est une vraie communauté d'écolos très engagée.
Quentin, chaque après-midi, vous allez tester notre mot du jour sur les gens dans la rue.
Je me suis rendu au village Charonne. C'est notre rédacteur en chef adjoint Pierre Courat qui m'a forcé. Pourquoi ? Parce que c'est dans le 20e arrondissement et que ça ressemble à un village. Et pourquoi selon lui ? Eh bien parce qu'il y a une église, évidemment. Allons voir dans la prochaine demi-heure si l'on peut recréer l'esprit village au cœur d'une capitale.
Aux alentours de 16h30, le Zoom Zoom Test vous permettra de découvrir les communautés humaines les plus étonnantes de par le monde. Un voyage qui vous entraînera, Manon, jusqu'en Alaska, dans un village où il n'y a même pas de Bershka. Juste avant 17h, nous retrouverons Harold Barbet qui a visité un éco-village avec un guest. Je ne vous en dis pas plus. Mais d'abord, Guillaume Faburel, est-ce que vous vivez ou vous aimeriez vivre, vous, dans un éco-village ? Est-ce que c'est un projet que vous avez ?
Non.
Non ! Ah bah non !
Ah bah si.
C'est bien vendu.
Bah
si.
Bonne journée. Non, parce que c'est la question des communautés, la manière dont on vit collectivement. Et on va en parler. Ça dépend aussi de sa propre trajectoire, de son âge, de ses envies. À un moment donné, de vouloir partager à des endroits en particulier, faire écologie autrement, etc. Donc je suis très très écolo. Maintenant, peut-être que je suis un peu trop avancé dans l'âge autour de cette idée-là, de faire communauté et éco-village.
C'est plutôt pour les jeunes, les éco-villages.
Bah, en tout cas, on en parlera. Oui, effectivement, il y a un rajeunissement qui est tout à fait remarqué. Je sais pas. Moi, en tout cas, je les observe, je les documente, j'en fais des recherches.
De là et vivre.
Voilà, c'est une autre partie.
Sauf à considérer Ponto Combo comme un éco-village, ce qui est compliqué, voire difficilement défendable, on peut dire qu'il n'a jamais vécu qu'en ville. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour, même considérer Ponto Combo comme une ville, c'est déjà aussi un truc.
Je ne me permettrai pas.
Voilà,
c'est vous qui vous
permettez. Un peu entre les deux, tout ça.
Cyril, chaque jour, la France attend votre petit billet impatiemment. Alors, les éco-villages, d'où ça sort ?
D'où ça sort les éco-villages ? Eh bien, de l'idée d'un hippie, évidemment. Il s'appelle Stephen Goskin et en 1971, il fonde The Farm, la ferme en français. Une communauté hippie dans le Tennessee installée près de la ville de Summertown. The Farm était une sorte de micro-société fondée sur des principes de durabilité, de solidarité et de non-violence. Cette ferme est souvent considérée comme le tout premier exemple d'éco-village de l'histoire. Voici comment elle se présente elle-même sur son site internet. La ferme est une communauté de familles et d'amis vivant sur 3 km km² fondée sur les principes de la non-violence et du respect de la Terre. Elle a été créée dans le but d'établir une communauté unie et tournée vers l'extérieur. Nous voulons, disent-ils, par notre action et notre exemple, avoir un effet positif sur le monde. Et 53 ans après, eh bien, cette farm existe toujours. Environ 200 personnes y vivent encore. C'était 1500 au moment de sa création. Vous pouvez aller la visiter, y passer la journée ou même y passer la nuit.
Alors, qui était son concepteur, ce Stephen Gaskin ?
Eh bien, j'ai parlé d'un hippie, mais Gaskin était aussi considéré comme un guide par sa communauté, parfois même comme un guide spirituel. Il a parcouru les États-Unis en long, en large, en travers pour partager ses valeurs avec l'espoir, bien sûr, de changer le monde. La communauté qu'il a fondée s'est souvent retrouvée aux avant-postes pour aider ceux qui étaient frappés par une catastrophe, parfois bien au-delà d'ailleurs des frontières américaines. Ils ont construit des maisons pour les victimes d'un tremblement de terre au Guatemala. Ils ont lancé une usine de cuisine au Belize, fait des formations au Liberia, comme ils ont aussi été parmi les premiers à se rendre à la Nouvelle-Orléans après le passage de l'ouragan Katrina. Stephen Gaskin est mort il y a pile 10 ans, mais son héritage demeure et on va en parler durant une heure.
Merci Cyril. Guillaume Faburel, on va rester un moment sur ce Stephen Gaskin. Qu'est-ce que les écovillages lui doivent ? J'ai l'impression que vous n'êtes pas fan de l'image du leader charismatique.
Oui, du créateur. Oui. Pas fan, ce n'est pas un avis personnel, c'est juste que ça s'est démultiplié, ça s'est diversifié et que cette ligne originelle des années 60-70, qui est indéniablement marquée dans l'histoire, hein, on va parler de Phil Horn et autres ou des choses comme ça, à un moment donné, la démultiplication fait que ça s'est singularisé selon les cultures d'appartenance. Et le deuxième élément, moi, qui peut me déranger, mais ce n'est pas le cas qui a été évoqué, c'est que il y a beaucoup de projets qui butent sur ce syndrome du créateur. À un moment donné, il faut enjamber, dépasser pour s'inscrire dans la durée. Et on sait que les écovillages, c'est un des défis qu'il aurait présenté aujourd'hui. S'inscrire dans la durée peut être un problème, passer les 2 ou 3 premières années d'existence.
Vous voulez dire, quand on parle de leader comme ça, il y a un moment où l'écovillage peut basculer dans la secte ?
C'est en tout cas l'imaginaire commun le rabat assez volontiers sur cette idée-là, ce qui à mon avis est totalement dénaturé, mais ça peut arriver, soyons clairs. Donc, pour combattre cette symbolique-là, et deux, mais moi j'inscris beaucoup dans la matérialité même du projet, l'inscrire dans la durée implique à un moment donné qu'il y ait du renouvellement, implique à un moment donné que la communauté puisse non pas se régénérer parce qu'elle serait aigrie, mais parce qu'au bout de 15 ans, 20 ans, à un moment donné, la question se pose.
Pour revenir sur les principes de base qui sous-tendent ces écovillages, il y en a un qui est important, c'est de ne pas prendre à la Terre plus que ce qu'elle peut nous donner.
Tout à fait. Alors ça, dans la diversité des mouvements qui ont pu créer cette chose-là depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, il y a un trait commun, c'est effectivement le rapport à l'écologie, le rapport au vivant. Vivre mieux avec moins, faire sobriété, la question écologique est matricielle, quel que soit d'ailleurs, alors là pour le coup, j'invalide ce que je viens de dire, quelles que soient les cultures d'appartenance, la diversité géographique de l'éclosion, le plus petit dénominateur commun, c'est cette question du vivant, c'est cette question de la Terre, et donc les empreintes écologiques et les limites planétaires. Ça joue un rôle déterminant.
Quentin. Il peut être contestataire, l'écovillage ? Notre-Dame-des-Landes ?
Oui.
C'est un écovillage ?
Alors, bienvenue dans la sociologie de la catégorie. A priori, ça ne l'est pas. Mais allez, voilà. Comment dire ? Les écovillages, en France, ont une singularité, c'est qu'ils sont assez peu nombreux, on parle plutôt d'écolieux, et qu'indéniablement, ces écolieux-là sont en train de politiser leurs propres agissements. Et qu'à bien des égards, même si une ZAD, et Notre-Dame-des-Landes fait partie des ZAD, n'est pas estampillée, labellisée écolieux, il y a, dans la proximité générationnelle, dans les idées défendues, dans le rapport à l'écologie dont on vient de parler, il y a beaucoup de proximité. Donc du coup, non, officiellement, ça n'en est pas, mais en plusieurs points, ça ressemble.
Parce que, les écovillages ou les écolieux sont labellisés en France ?
Alors, sont labellisés. En tout cas, il y a une coopérative qui dit des oasis, qui accompagne l'émergence de ces projets-là. Il n'y a pas de label estampillé. L'important, à un moment donné, c'est de pouvoir bénéficier de quelques ressources, de quelques moyens, et pas nécessairement financiers, de faire réseau, de pouvoir échanger les bonnes pratiques. Ouais. Auquel cas, c'est pas un label estampillé, c'est plutôt une communauté d'appartenance qui va échanger de l'information. Voilà.
J'imagine qu'il y a différents types d'écovillages du point de vue de la structure politique, si j'ose dire, mais il y a une direction, il y a un maire dans un écovillage, il est élu, c'est collégial.
C'est là où il faut être aussi assez précis. Là, ce dont je parle, ce sont des groupes qui, décidant majoritairement de quitter les villes, vont s'implanter dans les ruralités pour faire écologie autrement, on en a déjà parlé. Ils vont s'implanter dans des communes qui, rurales, offrent par moment la disponibilité de la terre, quelques bâtisses à retaper et puis un peu d'activité à apporter. Maintenant, en France, effectivement, mais dans beaucoup de pays, il y a une vieille tradition de la ruralité autour du village. Un éco-village, tel qu'on l'entend habituellement, c'est pas un village préexistant qui aurait été en totalité converti à l'écologie. C'est un lieu qui s'est implanté à un endroit, éco-lieu ou éco-village, une petite communauté.
Nouveau.
est plutôt nouveau, ou alors recyclant un bâtiment ou des bâtiments qui préexistaient. Mais en fait, vous soulevez la vraie question pour moi. C'est que les villages dont nous héritons vont devoir être convertis à l'écologie, sans pour autant toujours passer par l'implantation nouvelle d'un écolieu. Et là, il y a un vrai défi collectif, en fait.
Eh ben, on a encore un peu de temps pour réfléchir à une solution tous ensemble. Zoom sur les éco-villages. On revient juste après les Fugees, Ready or Not, sur Inter.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk awake. Those who come late know the world ain't kicked. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse, I kick a rhyme, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. White clefs in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want
I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some cortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy, believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you.
Zoom Zoom Zen.
Le géographe Guillaume Faburel est avec nous cet après-midi. Ensemble, on zoom sur le concept d'éco-village. Guillaume, qu'est-ce qui différencie un éco-village de 2024 d'un camp hippie des années 60-70? Ça a beaucoup changé quand même.
Alors, matériellement, en termes d'activité, pas tant que ça. Par contre, en termes de motivation, en termes de peuplement, ça indéniablement. Ils sont plus nombreux qu'ils ne l'étaient il y a 60 ans ou 70 ans. Ça, c'est le premier point. Ou 60 ans plutôt, 50-60 ans. Et deuxième élément, c'est que indéniablement, il y avait une volonté de s'extraire de la société marchande. Dans les années 60-70, les hippies étaient des Mao ou autres. Bon. Mmh. La dimension politique est en train de revenir, j'insiste, de manière très contemporaine, mais entre-temps, entre ceux qui, de racines un peu paysannes, ont voulu revenir travailler et vivre au pays, et des familles un peu saturées de la ville, arrivées à un moment de leur existence, avec des enfants plus ou moins grands, décidant de bifurquer en allant habiter autrement, là, on a différentes générations de néo-ruralité qui, en fait, maillent le territoire de manière assez différente, mais sincèrement, ce qui serait commun, sans l'exagérer et sans faire de la rétro-pensée, c'est la dimension écologique qui est présente depuis les années 60.
Mais vous disiez quand même tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de jeunes maintenant.
Oui, tout à fait. Alors, il y a un fait, deux faits un peu remarqués. Il y a un rajeunissement sur les 10 dernières années. Voilà. Et ça, c'est un effet de génération, c'est un effet de matrice écologique, c'est un effet d'effondrement généralisé, de dévastation collectivement organisée, hein, soyons clairs. Hein. Quand on voit ce qui se fait autour de la biodiversité, ça fait réfléchir un peu différemment. Il y a une féminisation aussi, qui est tout à fait remarquée, et qui un peu déroge. Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait que des personnes d'un certain âge dans les années 60, bien au contraire. Mais le temps faisant son effet, bien évidemment, ces personnes ont avancé aussi dans l'âge.
Et vous disiez, vous parlez aussi d'une repolitisation. Oui. C'est-à-dire, on avait des maoïstes, en gros, pour faire un schématique dans les années 70. Oui. Et aujourd'hui, c'est quelle tendance politique alors qu'on retrouve dans ces éco-villages?
Oh, ça serait difficile de la qualifier au regard de l'échiquier dont nous héritons et qui est assez, à mon avis, assez cloisonnant intellectuellement au regard des enjeux qu'il y a derrière.
Mais voilà. Comment ils s'engagent? Ils s'encartent?
Alors, il y en a qui arrivent, bien disposés, qui décident de s'impliquer dans la vie politique locale. Okay. Auprès des petites municipalités, on parlait des villages.
Et nouveau maire, par exemple.
Ah, par exemple. Ouais. Il y en a qui ont des trajectoires citoyennes et engagées, très politiques, mais à petite échelle et en fonctionnant différemment, sans pour autant se revendiquer d'un parti qui aurait sa représentation à Paris ou à l'Assemblée nationale. Et puis, moi, j'insiste sur un deuxième point, c'est que il y a indéniablement une critique très large de la société. C'est la société marchande des années 60-70, c'est du productivisme, c'est la question du pouvoir, c'est la question de la masculinité, du patriarcat. Voilà. On a des sujets qui ont éclos, et bien heureusement, sur les 50 dernières années, et qui peuplent ces environnements et ces endroits-là.
Il y a des écovillages 100% féminins ?
Oui. Ah, oui, oui. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a des communautés écoféministes et des écovillages. Là aussi, je ne l'ai pas précisé, mais il y a 1200 lieux qui, en France, sont qualifiés d'écolieux. Dedans, on a quelques écovillages, je le redis, ce n'est pas des villages préexistants qui ont été convertis à l'écologie.
Une nouvelle communauté.
Il n'y en a que quelques dizaines qui, en fait, regroupent une centaine de personnes, et encore, c'est vraiment le maximum par rapport à des exemples étrangers. Les écolieux sont de beaucoup plus petite taille. Voilà. À cette échelle-là, d'écolieux, de quelques personnes jusqu'à de petites dizaines, effectivement, vous avez des écolieux qui sont uniquement peuplés de femmes, ou alors qui sont mixtes, mais qui ont clairement l'écoféminisme comme ligne conductrice.
D'accord.
Voilà. Les Moulins Bleus, par exemple, si vous voulez jeter un œil. Enfin, regardez ce qui existe sur la cartographie, et vous avez vraiment. Il y a des fils conducteurs, mais il y a une réelle diversité.
Et on les trouve où ? Alors, en France, par exemple, ces écovillages, est-ce qu'ils sont plus dans une région qu'une autre ?
Alors, ça s'est, sur les 10 dernières années, aussi diversifié. Soyons clairs, ça a suivi des appétences que d'autres avaient déjà. Alors, l'attrait des océans, l'attrait de la Méditerranée, phénomène héliotropique, héliotropique, le temps libéré de la retraite, on revient dans sa région d'origine, etc. Ça, c'était les années 90-2000. Là, dorénavant, il y a 30% du territoire hexagonal, 30% des départements qui sont et qui accueillent aujourd'hui des écolieux. Alors, effectivement, on retrouve les lieux iconiques, historiques, Ardèche, Aveyron, Cévennes, le Grand Ouest, la Bretagne, le Sud-Ouest, Tarn, Garonne, etc., jouent un rôle assez déterminant. The place to be en ce moment, c'est la Drôme, mais à mon avis, ça ne va pas le rester, parce que ça se réchauffe rapidement et que la ressource en eau va commencer à manquer. J'insiste particulièrement sur le fait que, même dans la fameuse diagonale du vide, si chatoyante à l'oreille de ceux qui y vivent, habiter le vide, c'est quand même assez plaisant, et ben, même dans les Ardennes, il y a des écolieux qui sont en train d'éclore. Ça veut donc dire que, bon, voilà, ça se généralise, en fait.
C'est quoi la bonne taille d'un écolieu ? Est-ce que c'est le village gaulois, ou est-ce que, au contraire, ça s'étend un peu plus ?
Alors, là, ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a, c'est pas un quiproquo d'entrée, mais il y a une précision à apporter. C'est que, s'il s'agit de penser ce qu'une société réunie à un endroit donné pourrait, quelle est la taille de cette société pour que, écologiquement, elle puisse participer de la régénération du vivant, c'est-à-dire ne pas emprunter aux ressources et aux écosystèmes plus qu'elle peut consommer à un moment donné. Là, on parle plutôt de bourgs et de villages, voire de petites villes de proximité. Et dans un des sens urbaine, en croisant des données, on est à maximum 10-20 000 habitants. Bon. C'est largement excédant l'écovillage ou l'écolieu dont nous parlons. Donc, pour ce qui est écolieu et écovillage, on est en dessous de cette taille limite-là. L'important n'est pas tant... Alors, il y a quand même un paramètre, c'est la question de l'autonomie, c'est-à-dire l'autosubsistance et l'autodétermination, les deux réunis. C'est-à-dire fonctionnellement, comment, pour manger, pour se chauffer, pour se déplacer, pour se loger, pour se vêtir, localement, on peut arriver à par circuit court, à ne pas trop faire venir...
Pour se vêtir, ça veut dire que les gens qui sont dans un éco-village, ils ne vont jamais chez Zara.
Voilà, c'est exactement ça. Et je crois que ça ne leur manque pas. Enfin, ce que l'on
Je veux bien imaginer, mais ils arrivent ils font eux-mêmes leurs vêtements, comment ça se passe ?
Ah ben non,
c'est
mais...
local.
Il y a des friperies, maintenant.
Voilà, c'est ça. Des recycleries,
des friperies. Mais je connais. Voilà. Je connais, il y en a des bonnes dans le dixième.
Enfin, voilà. Donc ça existe aussi là-bas.
La conscience professionnelle aurait voulu qu'il franchisse courageusement le boulevard périphérique afin d'aller réaliser son micro-trottoir dans un vrai éco-village. Mais quand on l'a appelé « Conscience professionnelle de Quentin !» Elle n'a jamais répondu.
Oh,
et donc, le village...
Quel artifice,
vous avez, est-ce que les moyens techniques qui sont déployés dans cette émission, Quentin ? Vous vous rendez compte, avec la nouvelle console, en plus. Elle a été capable de faire un écho.
Formidable.
Donc, le village que vous avez trouvé, Quentin, il est caché dans Paris.
Alors, caché, plus tellement, Mathieu, mais disons qu'il fait toujours son petit effet lorsqu'on y arrive. Nous sommes dans l'Est parisien, dans le 20e arrondissement. Vous sortez du Père Lachaise, vous descendez quelques marches et vous y êtes. La carte postale fonctionne bien avec cette église Saint-Germain-de-Charonne. Les ruelles, les restaurants sur la place... Au numéro 6 de la rue Saint-Blaise, il y a cette femme qui sort des portants de vêtements et de vestes, dont une à frange.
Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom ?
Jenna Parodi.
Elle m'irait bien cette veste à frange là.
Complètement d'accord avec vous, carrément dans votre style.
Je lui fais lire le mot du jour de Zoom Zoom Zen.
Éco-village.
Comment on recrée un village au cœur de la ville?
C'est une rue pleine de charme. Effectivement, ce petit côté pavé donne ce petit côté village. D'ailleurs, on appelle le village Charonne. Et il y a un super mélange bobo, populaire. Les gens s'entendent super bien. Enfin, c'est une petite rue pleine de vie.
Et puis quand on tourne la tête, on a l'église au bout.
Ouais, vraiment. Enfin, là, c'est carrément le charme de la rue. C'est l'église où a été tournée les Tontons Flingueurs. Et vous avez le cimetière derrière. Sur Paris, c'est exceptionnel d'avoir une église avec son cimetière.
Oui, oui, à Pierre Courade, notre rédacteur-chef en juin, me l'a rabâché. C'est l'une des seules églises de Paris avec son cimetière. 20e arrondissement, is a new Lourdes. Comme il aime le chanter dans ses soirées.
Mon Dieu.
Jenna... Vous aussi, il y a des sacrés effets dans cette chronique.
Ouais. Jenna me dit qu'elle trouvait que Paris, en général, manquait de convivialité.
Alors que quand je me suis installée ici, je les ai carrément pris pour des dingues parce que ils sont tous venus me souhaiter la bienvenue. Bah, comme quoi qu'à Paris, on n'a pas l'habitude en réalité de cette convivialité entre voisins et tout. Et j'ai fini par comprendre que ouais, c'est vraiment l'état d'esprit du village.
Lui arrive sur son vélo, tour de cou, cheveux courts. Depuis quand vit-il ici?
Ça fait 2 mois.
Ah, vous êtes tout nouveau?
Tout nouveau dans ce quartier, oui.
Quartier ou village?
Bah justement, c'est peut-être pour cette raison que je suis venu ici. Parce que je viens de province et ça m'a fait penser un peu à ma Provence.
À quoi lui fait penser notre mot du jour?
Éco-village. Bah, là, tout de suite, ça me fait penser au... Ici, dans le quartier, il y a un... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une ferme urbaine. Et donc, je pense que ça reflète bien le concept d'éco-village, puisque là-bas, on produit, que ce soit des légumes, des fleurs ou des micro-pousses, des choses comme ça. Et les gens viennent directement cueillir là-bas. Oui, il y a une ferme juste là. Là, il y a un atelier de vélo. Puis là, il y a une frite, par exemple. Donc c'est vrai que dans un périmètre très restreint, il y a beaucoup d'initiatives qui font référence à ce concept d'éco-village, je pense.
On en revient un peu au projet initial dont nous parlait Cyril en début d'émission, et aussi des fripes et des magasins de vélo, enfin des réparateurs de vélo. Charlotte me sourit, elle a 50 ans, elle est guide conférencière, elle vit ici depuis 25 ans. Pour elle, il y a un ingrédient nécessaire pour recréer les conditions d'un village dans la ville.
Il faut du lien humain. Je crois que c'est surtout ça, en fait.
Ça passe par quoi?
Ici, ça passe par les lieux où on peut se retrouver, le café, par exemple, par le fait que c'est une rue piétonne. Donc les gens, et sur le lien social, il y en a plein. Plein de théâtres, de petits lieux aussi où il y a des choses à faire, quoi. Le basculement des deux bibliothèques, on veut le raconter, ça?
Non.
En fait, la bibliothèque qui est à ma gauche maintenant, avant, elle était tout en bas de la rue à ma droite.
Ouais.
Cette bibliothèque, elle a été en partie déménagée par les habitants qu'on fait une chaîne humaine pour passer les livres. C'était une sorte d'événement, c'était magique.
L'image des villageois solidaires pour déménager la vieille bibliothèque vers la flambante neuve médiathèque Marguerite Duras, elle se souvient d'autre chose encore.
Une anecdote, c'est drôle, une année j'ai fait la brocante avec une copine et sa fille qui habitent dans un tout petit village au fin fond de l'Oise. À un moment, elle me dit « Ah, mais il y a beaucoup d'étrangers ici ». Moi, je lui réponds « Ah bon, t'as entendu des gens parler en anglais ?» Mais en fait, c'est parce qu'ici, il y a des gens de toutes les couleurs et que dans son village, il n'y a que des blancs. Après, il y a quand même un truc de ici, vous êtes en haut et il y a en bas.
Vous allez me dire qu'il y a le village du haut et le village du bas?
Il y a le village du haut et le village du bas.
C'est quoi la différence?
Il y a une frontière. En haut, on est plus bourgeois et plus blanc qu'en bas, qui est quand même plus coloré et plus il y a plus de grands HLM, tout ça.
Il y a donc toujours une forme de séparation, même dans un village parisien, ou est-ce tout simplement le résultat de la gentrification? Je descends la rue, et effectivement, les immeubles sont plus récents. Je rencontre Moussa, en bac pro. Alors, qu'en pense-t-il de ce quartier?
Ah non, moi, pour moi, il n'y a pas une tête du village.
Ah ouais?
Non, il n'y a pas une tête du village. C'est un quartier, il n'y a pas une tête du village, un quartier.
Il ressemble un peu à un village, quand même. Il y a une rue commerçante, avec une église au bout, un petit cimetière, un jardin derrière.
Non. Après, moi, je vais pas où. Moi, je traîne que là. Moi, je traîne que en bas. En bas, pour moi, il n'y a pas de village. Il n'y a pas de village dans le quartier.
Intéressant, cette balade bucolique dans Paris, un Paris carte postale qui entretient l'idée d'un village, même s'il existe une forme de frontière invisible et de hiérarchie sociale. Dommage, j'avais presque trouvé un idéal pour notre concept d'éco-village.
Presque. Guillaume Faburel, on va trancher la question tout de suite, est-ce qu'il peut y avoir un éco-village au cœur d'une ville?
Non.
C'est juste impossible?
Non. Là, on a mixité, convivialité, brocante, c'est très très intéressant.
C'est pas un éco-village.
La question du vivant n'est jamais posée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les 100 premières villes de France qui ont 3 jours d'autonomie alimentaire. Il y a 19% de la population mondiale qui vit dans des villes qui s'enfoncent sous le poids du béton et du pompage néphréatique. Le FMI, qui n'est pas une cellule révolutionnaire, nous annonce en 2100 74% de la population mondiale qui vivra des canicules mortelles de 2 semaines à 2 mois par an. Tout ça, c'est le fait de l'urbanisation généralisée du monde. Donc là, le sentiment village, le sentiment communauté est essentiel. Mais c'est pas un éco-village au sens où l'écologie n'est pas la matrice de vie.
C'est... Voilà.
Voilà.
C'est un délire bobo pour vous ?
Je ne connais pas personnellement les personnes que vous avez interviewées, donc du coup, je ne me prononcerai pas. Par contre, il y a un risque à trop vouloir continuer à estimer qu'on pourrait convertir les grands agrégats urbains, les grandes villes, par ce type de concept, à une soutenabilité, c'est-à-dire une durabilité, alors même que le vivant est en train de trépasser par le poids du béton et de l'urbanisation.
Mais ça, si je vous suis, il n'y a pas d'avenir pour la ville. Il faudrait qu'on mette fin aux villes et qu'on se disperse en petits villages éco-responsables.
Exactement.
Mais ça va être compliqué quand même.
Le seul truc, c'est que les coordonnées écologiques, la descente énergétique, la compression matérielle, la moitié des mammifères qui ont disparu en deux siècles, 50%, 25% des oiseaux en Europe en 40 ans, on a 60% des écosystèmes planétaires qui sont altérés, 60% des rivières qui en France sont polluées. On est arrivé à un niveau écologique qui est purement dramatique et ça va embarquer les vies, ça va s'accélérer. Il n'y a pas de plan et de programme d'action autour d'un tel réaménagement ou déménagement du territoire, mais sincèrement, si on voulait avoir une écologie décente, qui ne soit pas technosolutionniste ou strictement durabiliste, qui soit vraiment plutôt décroissante, c'est-à-dire sobre, il nous faudrait réaménager de telle manière à vivre de manière plus uniformément distribué dans l'espace.
Pardon, mais l'expression « le déménagement du territoire », vous venez de le trouver, vous l'avez...
Non, je l'emprunte à un collègue, Maurice Lelanou, géographe des années 70, qui a déjà mis sur la table cette idée qu'il faudrait changer d'aménagement.
Je me dis que ça ferait un bon titre de
oui,
livre.
On le...
Ça ferait un bon concept.
Ou des missions aussi.
Oui,
ce serait bien.
Évidemment, oui, vous pensez toujours à nous, vous. On est en train de sauver le monde et vous pensez à notre émission. Non, mais là, on a quand même un... Enfin, Manon, pardon, vous voulez peut-être
non,
intervenir.
Non, j'allais demander, est-ce que les habitants des écovillages ou des écolieux sont vus comme des marginaux, ou est-ce que les gens d'à côté les prennent quand même au sérieux?
C'est un vrai défi. Parce qu'en fait, il y a, à mon avis, enfin, il y en a plusieurs. Il y a un premier défi qui est celui de la pérennité du projet, on en a déjà parlé. C'est-à-dire qu'on arrive, on s'investit à fond, et on ne s'ouvre pas nécessairement à l'extérieur. Et là, soyons clairs, il y a un choc des cultures qui peut aussi se présenter. Les locaux ne voient pas toujours ça d'un bon œil, mais non pas parce que, comment dire, il y aurait une disjonction, un paradoxe, une opposition. Mais tout simplement, je reviens au débat précédent. Les villes ont fait des campagnes à leurs mains. Les villes c'est le fleuron de l'humanité, hein, l'urbanisation. Les campagnes se sont vues, diagonale du vide, je l'ai évoqué, un peu disqualifiées, discréditées. Ces populations-là, pour beaucoup, ont intériorisé le fait que les néo-ruraux, urbains, très majoritairement, s'imposaient, faisaient un peu acte de colonialité. Je pèse le terme, mais c'est le terme que l'on peut retrouver par moment. Du coup, tant qu'on n'aura pas pensé la rencontre culturelle et sociale entre ces peuples, enfin ces populations, on pourra avoir l'impression qu'un écolieu est une enclave, voilà, un peu fermée à un endroit donné, mais l'insertion locale et la rencontre des populations situées, historiquement, les autochtones, c'est le terme consacré, représentent aujourd'hui un enjeu de premier ordre, en fait. Donc, il faut être vigilant à cette chose-là. Soyons clairs, et je terminerai là-dessus, dans 80% des cas, ça se passera très bien. Parce que les écolieux apportent aussi une petite énergie, un peu d'activité, ils s'investissent politiquement, on l'a pu l'évoquer. Tous n'arrivent pas avec des gros sabots en voulant donner le son. Il y a un peu d'intelligence, quand même, dans ce type de projet.
On continue de zoomer sur la notion d'éco-village avec notre invité Guillaume Faburel, juste après un zoom-zoom test très dépaysant aujourd'hui, limite choquant pour Manon, puisqu'on va aller jusqu'en Hollande. Mais d'abord, une petite... En Hollande.
Aux Pays-Bas,
oui. Bien sûr. Mais d'abord, une petite pause musicale avec Leon Bridges, Peaceful Place sur Inter.
Now
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur le concept des éco-villages, deux notions, éco et village, qui font déjà saigner les oreilles de Manon, je vous propose de partir plus loin encore, à l'occasion d'un zoom-zoom test particulièrement dépaysant, vous allez voir. Vous l'ignorez peut-être, mais le tout premier éco-village français se situe dans le Val-de-Marne, en périphérie d'Évry-sur-Seine, fondé par la communauté des Catogans de Gaïa, sous la houlette de leur chef de vie, Ghislain F., qu'ils appellent le Grand Véja, car il porte des sneakers éco-responsables du savoir. 80 tiny house alignés en forme de G, comme Ghislain, compose ce vortex d'amour de légumes et de moutons destinés à fabriquer les polaires personnels du guide suprême, la fonte. Une communauté intrigante, odorante aussi, car celui qui entre renonce à son déodorant, pas de sel d'aluminium chez les Catogans de Gaïa. Dans leur sillage musqué, partons à la découverte de ces communautés de vie surprenantes de par le vaste monde, en commençant par l'Alaska. Nous sommes en 2001, Cyril doit valider son stage grand froid pour accéder au statut tant convoité d'aspirant stagiaire au FBI. Avant de partir, conformément aux enseignements du livre de référence, le FBI pour les nuls, il a visionné trois fois Piège de cristal avec Steven Seagal, auquel il s'identifie vachement.
Oh my God.
Bref, après 4 jours dans le blizzard, vous allez voir, une question arrive, après 4 jours dans le blizzard et un idylle fugace avec un trappeur de la tribu Yupik qui a monnayé un sachet de viande de phoque séché contre un peu d'amour, Cyril arrive à destination. Mais loin du Las Vegas de l'Arctique qu'on lui avait vendu, il va déchanter. Car Whittier est un village constitué de trappeurs Yupik. Les habitants de Whittier sont des prisonniers de droit commun vivant sur la glace, où le village de Whittier est un seul et même HLM planté sur la banquise.
B.
C. Essayons ça.
Communauté pénitentiaire à ma droite. Vous pensez à un HLM, ils ont construit un HLM.
Pas.
C'est une bonne réponse de Quentin, lui, effectivement.
Un petit coup d'œil discret.
J'aurais bien voulu. Non, vraiment, je vous jure que non.
Les 200 habitants de Whittier vivent dans un seul et même immeuble avec ses boutiques, ses restos, son église et son administration afin de simplifier les opérations de déménagement. Dans ce bâtiment, qui est le plus haut d'Alaska, encore une info pour briller dans les dîners, il y a même une chambre à louer tout en haut, une belle destination pour le prochain week-end de Pierre Courade, ça le changera, de la Sarthe. Et maintenant, direction la Chine, dans la région de Kunming, une région proche du lac Dian, où une centaine de personnes vit un rêve éveillé. Dans ce village, aux allures de contes de fées, tout n'est qu'harmonie et bienveillance. Les habitants de cet Éden bénéficient d'infrastructures spécialement créées pour eux. Et c'est donc avec de grands sourires et beaucoup d'amour qu'ils ont accueilli Quentin, celui qu'ils surnomment notre frère au blouson qui pique les yeux. Oui, Quentin est des leurs, car c'est un village spécialement conçu pour les gens ayant des goûts de chiottes, les gens passionnés d'automobiles ou les gens de moins d'1m30.
Ah, c'est dur.
C'est... Pardon Quentin, je sais que vous faites plus. Hein.
Bah évidemment, je fais beaucoup plus. B.
Passionné d'automobile, il y a un petit circuit
ouais,
autour.
Ouais, je sais pas.
C'est une bonne réponse de Manon Marie.
Bravo. 1m30, ah oui, oui.
Vous ne rêvez pas, après avoir construit un parc d'attractions pour personnes de petite taille, poétiquement appelé le royaume des petites personnes, le milliardaire à l'origine du projet a ensuite carrément créé un village pour eux. Les maisons ressemblent à des arbres et des champignons, et la plomberie et les meubles ont été faits sur mesure. L'idée, d'après ce philanthrope, est qu'ils puissent échapper au regard moqueur de la société et vivre en harmonie. Ouais. Aujourd'hui, malgré la polémique qu'a suscité ce projet, le village compte plus d'une centaine d'habitants. Mais attention, car il y a peut-être pire. Direction les Pays-Bas.
Vous seriez brûlés là-bas.
Ah bah oui,
oui forcément. Je pourrais pas rentrer. Direction les Pays-Bas. Un pays qui va peut-être nous offrir sur un plateau la réponse à l'épineuse question « Qu'allons-nous faire de Cyril Lacarrière quand il ne sera même plus capable d'écrire un doux assort ?» 3 possibilités.
Dans
3 mois.
C'est
quoi.
Déjà le cas. Je rigole.
Oh Manon, j'hésite à vous mettre un point
non,
en
non,
moins.
Bah, là, il me le met, c'est sûr.
3 possibilités. L'envoyer dans un EHPAD spécialement dédié aux personnes bougonnes. L'envoyer dans un village où tous les habitants sont séniles. Ou l'envoyer dans un village où tous les habitants sont de droite.
B.
Pour vous, c'est les bougons.
Ouais, j'aimerais bien. Ce serait
drôle. On sait qu'on a réuni des personnes séniles au même endroit.
Bah oui.
Oui, je pense que c'est ça, oui.
C'est une bonne réponse. La réponse A, effectivement, je vous présente... la réponse B. La réponse B, la bonne réponse, bien sûr.
Je vais être précis, parce
que... Tous les gens sont saignés. Je vous présente les Pays-Bas, l'autre pays du troisième âge. Certes, les Hollandais n'ont pas eu que des bonnes idées, j'en veux pour preuve le gouda au cumin, mais ils ont eu celle de Hogeweyk. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, en revanche. Hogeweyk, dont le plus proche équivalent à ce jour était le Truman Show. Je ne sais pas si vous venez de ce film. Puisqu'on parle d'un village où les habitants ont tous Alzheimer et où les soignants sont déguisés en commerçants, en policiers, en postiers, afin de ne pas rappeler aux habitants qu'ils sont enfermés dans ce village. Le souci du détail va loin, puisque d'après vous, quelle est l'autre spécificité de Hogeweyk? Ils n'ont qu'une chaîne, une seule chaîne de télé spéciale qui ne passe que des programmes des années 60 pour leur rappeler leur jeunesse.
Oh non.
Les logements sont conçus comme dans les années où leur mémoire à court terme a cessé de fonctionner, où ils ont droit à une soirée échangiste par mois car les effets du sexe sont bénéfiques pour la mémoire immédiate.
Les trois.
A et B, je dirais moi.
Ah, malheureusement, c'est une seule des réponses.
Juste à la télé.
Bah B, alors du coup.
Oh oui, bah non, bravo Manon. Désolé, pas de sexe pour les vieux Hollandais. En revanche, si la déco de leur maison vous rappelle chez votre mamie, c'est normal, c'est fait pour. Tout doit les ramener à l'époque où ils avaient encore toute leur tête. C'est pourquoi la future maison de Cyril, actuellement en travaux, aura une belle cuisine en formica. Victoire. Victoire de Manon, malgré le point de pénalité qui vous a été infligé.
Parce que... C'est marrant ça, comment c'est possible?
Mais c'est les calculs sont faits en régie, ils ne sont pas faits par moi.
Ouais, peut-être
en régie. C'est simple comme temps, j'ai vraiment répondu à tout bon. Donc là pour le coup.
Tout bon, je crois pas. Non,
bon, vous avez eu un truc quoi.
Oui.
Alors qu'on zoome, les amis, sur le concept des éco-villages, aujourd'hui, nous sommes avec Guillaume Fabura. Je m'étais trompé de page, d'où ce lancement
hasard.
On zoome sur les éco-villages avec notre invité, le géographe Guillaume Faburel. Je rappelle votre livre « Indécence urbaine pour un nouveau pacte avec le vivant ». Guillaume, je le disais, vos études portent sur l'urbanisme actuel des villes. On peut le lire dans votre dernier livre. Il est où le principal problème des villes aujourd'hui? D'après ce qu'on disait, j'ai l'impression que c'est le fait que les villes ne sont pas du tout autosuffisantes. Genre en trois jours, on ne peut plus se nourrir dans une ville.
Oui, s'il y a une rupture d'approvisionnement, un blackout, c'est un chaos.
Ça, c'est le premier truc à résoudre. Mais est-ce qu'on peut le résoudre?
Est-ce qu'on peut le résoudre à cette taille de concentration et de densité? Non. Voilà. Donc, du coup, il nous faut penser une autre organisation du territoire. Qui soit un peu plus équilibrée, un peu moins concentrée, un peu moins disparate. Parce qu'il y a un autre élément, c'est à la fois le métabolisme, donc nos niveaux de dépendance, tous les hectares fantômes qu'on exploite à l'autre bout de la Terre pour nous concentrer à tel endroit, les esclaves énergétiques qu'on utilise pour pouvoir faire fonctionner ce studio, les tours, ascenseurs, enfin bon bref, tout ce qui fait la ville et les modes de vie urbains. Il y a un deuxième élément quand même qui est assez structurant, au-delà de l'aspect, on va dire, matériel, énergétique, métabolique, c'est la question de nos propres imaginaires. C'est-à-dire qu'on est embarqué dans cette réalité-là et ça nous a dissociés, ça nous a éloignés du vivant. Et les villes ne nous permettent pas de recréer de la sensibilité à l'endroit de l'environnement. Mais... Or aujourd'hui, c'est ça, le nœud du problème, la crise écologique est une crise de sensibilité. On n'est plus... On peut s'émouvoir à distance par un écran interposé ou devant son bureau. À un moment donné, ressentir très directement, c'est ce qu'offrent aussi les écolieux comme expérience, c'est de voir la fragilité et de prendre la responsabilité à un moment donné.
Mais je suis presque pris d'une tristesse abyssale à vous écouter parce que il faudrait changer tout notre logiciel. C'est-à-dire que depuis 2000 ans, avant même Athènes, Rome, la ville, c'est vraiment le modèle de développement d'une civilisation.
Tout à fait.
Donc il faudrait casser ça.
On est arrivé peut-être à un point,
De rupture.
De bascule.
Et peut-être que les prochaines civilisations pour vous, mais là on voit très loin, on ne sera plus là pour le voir, sont des civilisations plus éparpillées.
Oui, et qui ont déjà pu exister par le passé.
On a des exemples.
À des échelles microscopiques, soyons clairs. Et qui ont composé autrement avec les limites écologiques de leur milieu de vie. Voilà. Qui ont dû. Voilà. Les cultures insulaires, par exemple, peuvent nous enseigner beaucoup de choses. La disparition des cités perdues, alors là, c'est un temps très, très, très éloigné. Les villes décroissantes ou les villes en transition aujourd'hui peuvent aussi nous donner, et d'où la limite de 20 à 30 000 dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est très disséminé dans l'histoire, mais indéniablement, on en a un peu l'expérience déjà. Donc, du coup, il ne s'agirait pas de tout créer d'un claquement de doigts, mais de non pas revenir en histoire, il ne s'agirait pas de revenir
en arrière.
Il s'agirait de faire un détour par ces éléments de connaissances-là. Mais effectivement, je ne suis pas le seul à le penser. On n'est pas très nombreux, je ne vous le cache pas, qu'on est arrivé peut-être à un point ultime d'une humanité qui s'est construite civilisationnellement, j'aime pas ce terme-là, par l'urbanisation, par la ville, et qu'aujourd'hui, ça pèse d'un poids trop dirimant sur nos écosystèmes et sur le système Terre, et qu'il va nous falloir habiter autrement la Terre.
Pardon, j'aimerais qu'on finisse en revenant sur l'écologie. l'éco-village plus spécifiquement, mais j'ai une dernière question sur la ville. Et comme là, à Paris, ça va bouger, Anne Hidalgo ne va pas se représenter, elle nous a déjà présenté son nouveau poulain. Est-ce que ça sert à quelque chose de dire on va faire de Paris une zone zéro émission, sans voiture? Est-ce que c'est des coups d'épée dans l'eau ou est-ce que c'est quand même bien?
Alors c'est verre à moitié vide, verre à moitié plein. Moi, je suis plutôt pas la culture du verre à moitié vide. À mon avis, c'est assez insignifiant, voilà, pour pas dire aggravant. Alors, insignifiant parce que ça n'est pas à la hauteur, soyons clairs. Hein. Toiture végétalisée, électromobilité, les cool roofs, enfin toutes ces choses-là, même les passoires thermiques qu'il faudrait restaurer, c'est très très important, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de la dévastation qui est en train de s'organiser. Et c'est aggravant, alors je vais juste jusqu'à ce point-là, parce qu'en fait, ça laisse espérer à la résilience et à l'adaptation des grandes villes, alors même que, soyons clairs, je sais que ça peut paraître anxiogène, mais à moyenne ou longue échéance, les grandes villes vont devoir changer de trajectoire, et c'est plutôt des ruines annoncées, ou en tout cas un démantèlement qu'il va nous falloir penser. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devoir en partir, mais il va falloir rétrécir. Voilà, pour
ça,
être un peu plus équilibré.
Ça va pas trop dans le sens du capitalisme, tout ça? La propriété dans un éco-village, est-ce que ça doit avoir lieu? Est-ce qu'on doit être propriétaire?
Alors là, les expériences, on a montré que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer par la propriété privée pour l'acquisition, et le groupe de personnes qui a décidé de faire collectif va essayer de partager les usages, voire même de réviser le statut de propriété privée pour essayer de le communaliser, c'est-à-dire le partager. Voilà. On a un système juridique qui permet aussi de faire évoluer notre propre rapport à propriété privée. Effectivement, la propriété privée est un frein à ce que je viens de dénoncer en termes de déménagement. Il y a plein d'autres freins, mais celui-ci est un verrou bien, bien important. On peut partager autrement la propriété et, ce faisant, mener des activités qui soient pas simplement celles du retour sur investissement ou de la marchandise. Voilà.
Vous écoutez France Inter, parfois même, vous me l'avez signalé, sans appareil auditif. Je vous dis bravo. Manon, chaque jour, l'autre personne à suivre.
Il y en a deux, cette fois-ci.
Il y en a deux.
Je présente Eileen et Peter Cady. Ils sont anglais, ils sont en couple et ils ont fondé l'un des premiers éco-villages en Écosse, le village de Findhorn. Peter Cady, lui, est un ancien officier de la Royal Air Force, et Eileen, une femme mystique dotée de dons de communication spirituelle. Leur histoire est assez marrante puisqu'en 1962, le couple s'installe avec leurs trois enfants et une amie canadienne, Dorothy McLean, dans une caravane située sur un terrain vague de la côte nord-est de l'Écosse. Les trois amis se sont fait licencier d'un hôtel pas loin. Ils n'ont pas d'argent et décident donc de se lancer dans la culture d'un potager pour se nourrir. La légende raconte que le sol de leur potager est très pauvre, mais que grâce aux dons spirituels de Eileen, une abondance de légumes arrive à pousser, notamment des gros choux et des plantes. Très vite, Findhorn devient un lieu d'intérêt pour ceux qui cherchent une nouvelle manière de vivre en lien avec la nature et le divin, et forcément à l'écart du reste de la société. On est en plein dans les années hippies aussi, donc ça aide, on le disait. Au fur et à mesure des années, Findhorn a évolué en petite communauté spirituelle, en un vrai éco-village pionnier reconnu partout dans le monde. Car aujourd'hui, il est considéré comme un modèle de durabilité combinant innovation technologique et respect des cycles naturels. Parmi les initiatives mises en place, les énergies renouvelables avec des éoliennes et des panneaux solaires qui fournissent une grande partie de l'énergie utilisée dans le village, des habitations écologiques avec des maisons construites grâce à des matériaux naturels. Il y en a une construite avec des fûts de whisky, par exemple.
Oh, la belle idée.
Et puis la permaculture et l'agriculture biologique sont aussi leur maître mot. Il y a trois immenses serres qui abritent une trentaine de variétés de légumes. Ils ont aussi mis en place un système innovant appelé Living Machine qui purifie les eaux usées grâce à des plantes et des micro-organismes. Oui, j'ai découvert tout ça. Eileen et Peter Cady ont même racheté l'hôtel d'à côté, le même qui les avait virés des années auparavant. Hôtel qu'ils ont transformé en lieu pour accueillir les touristes. Aujourd'hui, plus de 500 personnes vivent à Findhorn et près de 4000 visiteurs de 50 nationalités différentes s'y rendent chaque année. Eileen et Peter ne sont plus vivants aujourd'hui, mais ils ont laissé un héritage considérable avec leur éco-village et dire que tout ça est parti d'un potager.
Merci Manon, vous connaissiez ce village ?
Oui, enfin, pas personnellement, je n'y suis pas allé, mais dans l'iconisation et dans la longue histoire des écolieux et des éco-villages, Findhorn fait partie des lieux initiatiques, ça indéniablement, des années 60.
Et le côté se reconnecter avec le divin qui était un peu présent au début, ça c'est en train de s'estomper, j'ai l'impression.
Alors, néanmoins, la question du spirituel est posée aussi dans les écolieux. Ouais. Sauf que moi, il me semble qu'il y a aussi une tendance à aller vers une forme d'écologie du bien-être, voilà, qui oui. peut être chevillée à ça. Donc culturellement, on n'est pas tous égaux hein, face à cette chose-là. Ça peut poser question, hein, soyons clairs, parce que s'il s'agit à un moment donné spirituellement d'investir le lieu et de croire que simplement par la beauté oui. de l'âme et de l'esprit, la matière va rejaillir, voilà, l'écologie est un peu contraire.
Ils ont eu des gros choux, apparemment.
Oui, mais d'accord.
Ils ont eu des gros choux. Merci Manon pour cette belle chronique. À suivre, vous nous rejoignez à peine. Vous avez loupé la moitié de ce qu'on s'est dit sur les écovillages. Ne fondez pas en larmes en maudissant votre étourderie, car Pierre Courade arrive pour vous résumer tout ce qu'on s'est dit en seulement une minute chrono. Et il vient nous rejoindre en studio. Bonjour Harold Barbet.
Namasté Mathieu, namasté les amis. Enfilez votre plus belle veste polaire quechua et chaussez vos spartiates à velcro. Je vous emmène en voyage dans un écovillage que vous n'oublierez pas.
Oui, ça s'annonce bien. Oui. La chronique d'Harold, c'est juste après Live On Man, luxe sur Inter.
Gonfle l'ambition, gonfle les barres, il mise le double. Augmente la vise, on porte le vise, on vise le joule. Pas d'hésitation, pas de répétition, sort de la douche. Ici c'est ça, si tu te balles, c'est que tu doutes. Cramer les étages, monter d'un immeuble, gagner la tour. J'porte les kilos, j'porte le calibre, j'garde les douilles. J'veux pas de surprise, j'ai trouvé refuge dans le four. C'est la reine, soit tu te ramènes, soit tu te couches. Viser la dure, viser l'endurance, viser le pur. J'ai vu le futur, y'a de la violence sur tous les murs. Éteins la télé, ferme les volets, prends la voiture. Sors la prochaine, cherche le progrès, cherche le luxe. Elle veut me parler, je sais pas ses pronoms, je crois que ses yeux. Choix d'indécision, beaucoup de questions, même ça fait peur. J'ai toujours tranché entre les options, rouge et le bleu. Soit c'est les diamants, soit c'est la bombe, viens jamais les deux. Remets de l'ego, remets du nitro, plein dans la caisse. La raison connaît ses limites, serre-toi un verre. Baisse de la vision, prends de la vitesse, coupe la tête. Passer la limite, prends de la distance, casse les fenêtres. Remets du diesel, remets du nickel, remets du fuel. Brûler le passé, fais de la place sans aucun doute. Ferme les fautes, voyez les fautes, trace ta route. Ici c'est ça, la puce, allez, ferme ta bouche.
Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Lui, il fut l'un des pères fondateurs d'une alternative chrétienne à l'éco-village, le Cato-village. Sur les rives verdoyantes de l'Adour, il avait lancé, avec son aumônier, l'abbé Chibrard, un village entièrement réservé aux serviteurs du Christ, avec fontaine à eau bénite, distributeur d'hosties et projection hebdomadaire du film Les Choristes, chaque dimanche après la messe. Le nombre d'habitants ayant plafonné à deux, lui et Chibrard, l'expérience a été annulée. Bonjour Pierre Courat.
C'était un bon début, important.
Vous entendiez bien.
Exactement.
Chaque après-midi, Pierre, vous nous résumez ce qu'on s'est dit avec l'invité en une minute chrono.
Oui, et Guillaume Faburel, notre invité, a pu découvrir pendant une heure l'éco-village de Zoom Zoom Zen avec ses règles et ses us et coutumes, hein, l'ironie comme art de vivre, le gai savoir comme devise et l'éclectisme comme ligne directrice. Il n'en fallait pas plus pour se lancer dans l'aventure. On a même pensé à notre alimentation avec l'apport en permaculture de notre réalisateur Ghislain Fontana. Ne pas prendre à la terre plus qu'elle ne peut nous donner, c'est le mantra des éco-villages, c'est ce que nous a dit notre invité. Et il en a dit hein, des choses, hein, tant le débit est deux fois plus rapide que celui de Mathieu, c'est dire... Néanmoins, il existe des différences hein, entre les écovillages et nous. Pour Guillaume Faburel, les écovillages ont du mal à s'inscrire dans la durée après 2 ans d'existence. Ici, on a franchi le cap. En revanche, contrairement à Zoom Zoom Zen, des écovillages, il en existe partout en France. D'abord établi autour d'un leader charismatique, ce qui a pu conduire à des dérives sectaires dans les années 60-70. Aujourd'hui, ces communautés sont plus jeunes. Elles se réunissent en réseau, elles échangent des bonnes pratiques et même des vêtements. Elles construisent des villages plus qu'elles convertissent des villages existants. Autant de différences qui nous éloignent d'un écovillage traditionnel. D'ailleurs, avant le micro-trot de Quentin, maintenant on pensait que le 20e arrondissement était à l'extérieur du périphérique et que L'amour est dans le pré était tourné dans un hall du salon de l'agriculture. Mais elle s'habille dans des friperies. Rien n'est encore perdu.
Rien n'est perdu. Merci Pierre. Enfin, il va nous livrer son impression sur les écovillages, même si économe n'est pas forcément l'adjectif qui lui convient le mieux, tant son spectacle est une profusion de vannes 5 étoiles. C'est lui qui a écrit ce lancement. Bonjour Harold Barbet.
Bonjour Mathieu. Je dois bien vous l'avouer Mathieu, avant de me pencher sur le sujet, je ne savais pas ce qu'était un écovillage. Je pensais que écovillage, c'était la marque de vin rouge pas cher de chez Leclerc. Celle tout en bas du rayon sur laquelle se jette avidement Cyril Lacarrière, quand une fois de plus Manon lui a parlé d'égalité des sexes et de respect. Non, l'écovillage est un village presque parfait, où tout le monde vit en harmonie. L'écovillage, c'est un peu comme un rond de serviette. La première fois qu'on t'en parle, tu te demandes comment tu as fait pour vivre sans. Et puis rapidement, tu te rends compte que ça te fait quand même bien chier de piller ta serviette. Pourtant, la découverte du concept d'écovillage fut pour moi un moment d'épiphanie. Je repense alors à l'énorme tatouage de Manuel Valls qui mange une part de cheesecake que vous avez dans le dos, Mathieu. Avec ce slogan, le changement, c'est maintenant. Et vous avez raison, Mathieu, le changement, c'est maintenant. Je décide immédiatement de prendre la route et de me rendre dans un écovillage. Mais je veux documenter mon aventure. Ainsi, je contacte mon estimé collègue, Quentin Lui, pour lui emprunter son célèbre micro-trottoir. Je donne rendez-vous à Quentin devant l'entrée d'une magnifique forêt. À peine arrivé, le charme opère déjà. Je tombe face à une créature magique, toute droit sortie de l'imagination de Tolkien, accroupie par terre. Bonjour, jeune hobbit. Fais attention, on peut voir ta raie des fesses. Oh, Quentin, excuse-moi, je ne t'ai pas reconnu de dos. Nous arrivâmes devant l'entrée d'un village, où un grand désordre règne. Un canapé nous y accueille, quand Quentin décide de s'y lever. Une dame au regard menaçant vient à notre rencontre. Bonjour madame, excusez la fatigue de mon compagnon, nous souhaiterions nous installer dans votre village. Et a priori, vous ne serez pas contre 2 paires de bras de plus pour nettoyer tout ce bazar. Ce à quoi elle me répond.
Mais bande de tarés, vous êtes à la déchetterie là, c'est en face les co-villages.
Ah mince, qu'à cela ne tienne, suis-moi Quentin. Nous voilà enfin dans le village de Subodoria. Quentin, affamé à force de porter le matériel, s'exclame.
Oh là là, j'ai faim.
Décidé à ne pas laisser mon compagnon de route mourir de faim, je jette un œil autour de moi. Regarde Quentin, un stand de tartines et de produits frais. Nous allons pouvoir y faire ripaille. Bonjour madame, nous souhaiterions nous installer dans votre magnifique village. Pourriez-vous offrir une tartine à mon noble compagnon, s'il vous plaît?
Tenez jeune homme, une bonne tartine de fromage.
Régale-toi mon Quentin. Mais attendez une minute, de fromage? Je pensais que c'était une ferme végane.
C'est du fromage de bite, maison.
Nous pouvons remercier Fernand, Abel et Rodrigo, ça leur a pris plusieurs mois. Ah bah oui, certainement, mais Quentin, remercie s'il te plaît Fernand, Abel et Rodrigo.
Merci.
Je sens que Quentin a besoin d'un break. Je décide de nous inscrire à l'atelier de création spirituelle. Nous commençons la séance par répéter ce mantra qui fait quand même vachement penser au bruit de mon micro-ondes. La nuit fut difficile. Séraphine nous a interprété a cappella les plus grands tubes de Trio, accompagnés par Théo qui lui donne le rythme en P de dessous de bras. Je commence à avoir des doutes sur notre avenir au sein du village. Je retrouve Quentin déjà debout aux aurores, en slip, le regard vide, en train de battre la fraîche brume du matin à l'aide d'un bâton. Qu'est-ce qui se passe, Quentin ?
L'anneau est trop lourd à porter.
Quelle idée aussi de les laisser te poser un prince Albert. Quentin, ça peut te sembler un peu fou et too much ce que font ces gens ici. Mais si l'homme avait été plus vertueux et plus respectueux, nous n'aurions pas besoin d'en arriver à de telles extrémités. Ce sont ces gens qui ont raison, et ce qu'ils font est nécessaire et exemplaire. Ils ont toute mon admiration. Allez, viens, Quentin, tu es le prochain à passer au concours de cris de cochon.
Merci Harold Darbé pour cette vision très particulière de l'éco-village. D'ici à ce qu'on vous revoit.
Particulière.
Oui, particulière, avec la complicité de Quentin Magistral, hein, quel acteur.
Quel fromage
aussi, hein, vous ne l'avez pas digéré. Vous serez, mon cher Harold, dans tournée en spectacle à La Rochelle le 30 novembre, à Caen le 13 décembre, à Saint-Denis-le-Gast le 14 décembre. Toutes les dates sur haroldbarbé.com. Vous aussi, maintenant, vous avez votre site à votre nom. C'est
absolument
fou, cette starisation de nos humoristes. Merci beaucoup, Guillaume Faburel, de nous avoir fait découvrir les éco-villages, les vrais, ceux-là. Je rappelle votre dernier livre, Indécence urbaine pour un nouveau pacte avec le vivant chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Vous ne bougez pas, car non seulement Zoom Zoom Zen revient après le journal de 17h, mais vendredi oblige, on revient en mode Zoom Zoom Back. On ajuste le rétro et on se replonge dans une année marquante de l'histoire. Aujourd'hui, direction 1964, l'année où les Beatles ont fait ce qu'Intérieur Nuit n'a jamais fait, conquérir l'Amérique. Pour en parler, Paul McCartney ayant eu un petit empêchement de dernière minute, nous serons avec le deuxième plus grand spécialiste des Beatles après McCartney, Antoine Decaune, avec nous jusqu'à 18h.
Zoom Zoom Zen.